La COP21 ne se fera pas sans le mouvement citoyen Alternatiba, rencontre avec ses acteurs à Moins-Sartoux dans le 06. Alternatiba à Moins-Sartoux, attentes, enjeux et défis attendus pour la COP21.
Alternatiba est un processus de mobilisation citoyenne en faveur du changement climatique. Dans plus de 60 villes d'Europe, des événements festifs ont été organisés ou sont en projet. Des centaines d'alternatives y sont présentées pour susciter des prises de conscience et pour faire pression sur les décideurs, notamment dans la perspective de la COP21. En fin d'année 2015, la France accueillera et présidera cette 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une échéance cruciale puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. C'est à Moins-Sartoux que le collectif Alternatiba a choisi samedi dernier de mobiliser les citoyens sur différents types d'alternatives. Véronique Armand s'est approchée du quartier de l'énergie et a fait la rencontre avec Stéphane Poufari, Fondation d'énergie 2050. Cette association travaille sur la grande transition et se questionne de façon globale sur le développement durable, évitant ainsi les approches sectorielles. Le but, mutualiser différents projets et déterminer un bouquet de solutions afin de sortir de l'actuelle trajectoire qui peut sembler fatale. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site Fréquence Mistral Castellane. Vous y entendrez le premier adjoint de la mairie de Moins-Sartoux, un représentant d'Alternatiba et quelques jeunes participants. Mais tout de suite, Stéphane Poufari.
On veut montrer que les solutions sont réalistes, sont des possibles. Et cette espèce d'envie collective doit être demain porteuse de solidarité et d'une envie de travailler différemment et tout bêtement d'un mieux vivre partagé parce que les modes de consommation et de production d'aujourd'hui ont montré leurs limites. Donc tous les enjeux d'Énergie 1050, c'est de questionner ces trajectoires et surtout d'être des témoins et des passeurs de relais entre des solutions.
Vous interveniez sur la COP21. Quelle a été l'évolution depuis Lima ?
Alors, depuis Lima et en fait depuis la fin de la période du processus du protocole de Kyoto, de la première période, très clairement, on est dans une zone délicate où on se retrouve confronté à une espèce d'inversion du processus onusien, c'est-à-dire avant les États négociaient des objectifs et ensuite les mettaient en œuvre avec des politiques et des mesures nationales et devaient mettre aussi en œuvre des mécanismes d'accompagnement de nos voisins du Sud, de nos pays dits en développement. Et aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, on est rentré sur un processus qui remonte, qui fait que tous les pays se sont engagés à construire ce qu'on appelle les contributions prédéterminées au niveau national. Et l'addition de toutes ces contributions doit normalement faire que nos trajectoires vont être soudées 2 degrés. Donc cette idée-là est de dire tout le monde va additionner, mais ça pose d'autres problèmes. C'est qu'on s'est appuyé sur l'ensemble des pays, autant les pays en développement que les pays industrialisés, toujours dans l'esprit du principe de responsabilité partagée mais différenciée. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne trajectoire. On sait très bien que l'ensemble des pays n'ont pas mis des objectifs suffisamment ambitieux, et d'autant plus qu'on ne connaît pas la forme juridique de l'accord de Paris. Donc on est vraiment dans une espèce de grande transition de pensée au niveau des Nations Unies sur le changement climatique. Et tout ça fait que Paris doit trouver un bouquet de réponses. Et ce bouquet de réponses, on le sait, va être délicat, mais il y a une envie d'agir, une envie d'obtenir quelque chose. Même si l'accord est un peu mou, il y aura quelque chose qui va se passer à Paris, parce qu'on ne peut pas se payer le luxe d'avoir un échec.
Quelle est votre vision sur les prochaines négociations à Paris ?
Énergie 2050 est très impliquée dedans puisqu'on fait le guide des négociateurs, on fait un guide des citoyens et nous-mêmes on aura énormément d'événements puisqu'on travaille sur ces sujets avec des États. On a accompagné 7 pays à faire leur communication nationale. Ma vision est qu'on va arriver à un consensus très mou. C'est-à-dire que politiquement il va y avoir un accord. Maintenant, la vraie question et qui risque d'être repoussée à la prochaine COP de Marrakech, la COP 22, ça va être la COP de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura cet accord, on va se poser la vraie question, c'est comment on fait ? Et c'est quand même un danger, parce que de COP en COP, de conférence climat en conférence climat, on repousse l'échéance de la mise en œuvre. C'est-à-dire que là, l'accord de Paris, c'est sur 2020-2030. Les gens ont tendance à oublier. Ils pensent que dès le lendemain de Paris, on travaille sur la mise en œuvre. Non, on va travailler sur un accord qui sera officiellement, juridiquement contraignant, ambitieux, réaliste, opposable, sous une forme juridique à définir. Donc oui, il y a beaucoup de points de suspension pour 2020.
Et donc, c'est pas un peu long comme période ?
Ben c'est carrément très long. Et donc, il y a aussi dans l'accord de Paris, et on en parle beaucoup moins, c'est la période 2015-2020. On va rester sous une trajectoire de 2 degrés à partir et à l'horizon 2020-2030 et au-dessus. Ça n'a pas de sens si on continue sur des trajectoires où d'année en année, on est sur des records d'émissions. Donc, vous voyez que Paris est confronté à cette espèce de schizophrénie, un accord lointain et une réalité de mise en œuvre aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous verriez comme solution ?
Alors moi, ce que je verrais, c'est une solution de bon sens qui ferait qu'à un moment donné, on réaliserait qu'il y a quand même des opportunités de solutions réelles, que ce n'est pas un plaidoyer, je l'ai dit dans la conférence, nous sommes en faveur des témoignages des possibles. Et si on additionne les solutions, les opportunités déjà avérées, déjà montrées, les coûts-bénéfices de travailler à la fois sur l'adaptation qui aura des effets sur l'atténuation, de travailler sur des sociétés plus résilientes avec du mieux vivre et surtout un co-développement sud-nord-sud-sud, bah très clairement, on voit bien que l'équation est solvable. Sinon, on est confronté à ce que l'on voit déjà aujourd'hui, une lutte réelle des migrants. Alors là, c'est pas des migrants par rapport à des zones de conflit, même si beaucoup de ces conflits vont aussi venir de questions de lutte pour des ressources. Mais très clairement, on sait déjà qu'il y a plusieurs millions de migrants climatiques par an. Et le GIEC nous parle de centaines de millions de migrants climatiques parce que l'accès aux ressources va exacerber des problématiques déjà pour des pays en souffrance, va avoir de plus en plus des conséquences même pour nous, les pays du Nord. Donc de fait, soit on plaide pour un bon sens, soit on va être confronté à une réalité conflictuelle de mise en œuvre. Tout notre travail est de témoigner, de montrer que c'est faisable, mettre en œuvre des projets réalistes pour que demain, ben, on soit confronté à une évidence, ça marche versus ça marche pas.
On peut penser que la COP21 est peu efficace, mais imaginons qu'elle disparaisse, qu'est-ce qui se passerait ?
C'est pas simplement la COP, enfin je vois bien votre question, c'est très important, mais pour vos auditeurs, c'est tout le processus onusien qui va être adossé à la COP, c'est-à-dire toute la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors très clairement, je pense que ce serait un drame. Pourquoi ? Alors, c'est que beaucoup de gens pensent que cet accord, parce qu'il est dur à mettre en œuvre, qu'il n'a pas marché déjà une fois, il n'a pas de sens. Ben non, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se souvienne qu'on négocie à 195 pays. Et chaque pays est schizophrène et à la fois magicien, porteur de bonne volonté, de bonnes nouvelles, et à la fois de schizophrénie, de contradictions, d'antagonisme, de lobby, de désinvolture, de mensonges, de tout ce que l'on peut imaginer. Et si vous mettez ces 195 pays, vous voyez bien que l'équation est insolvable. Mais si vous ne les mettez pas autour de la table, vous en parlez quand ? Le climat n'est pas en soi un problème, et je vais être volontairement très provocant. Le climat est en soi quelque chose qui exacerbe des problèmes. Donc quand on travaille sur le climat, on ne peut qu'à un moment donné se poser la question de comment je vais soigner le problème. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a été un peu comme si on était confronté à une gangrène globale, rapide, et qu'en fait, on continue à prendre un coton et à nettoyer la plaie en disant « ça va passer ». Mais non, le climat n'est pas en soi porteur de la solution, mais va nous permettre de nous questionner sur comment je réponds aux problèmes à l'origine des dérèglements. Et ces problèmes-là, ils vont devoir se traiter au nord et au sud, mais de manière conjuguée. On ne peut pas imaginer aujourd'hui continuer ce modèle, puisqu'on sait qu'on est sur des scénarios catastrophiques et que beaucoup de pays sont déjà confrontés à cette réalité.
Comment voyez-vous l'avenir ?
À titre personnel, je pense que l'avenir peut être différent. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, mon métier, l'expérience que j'en ai depuis des décennies et même que nous on voit sur le terrain et même dans les négociations, c'est une véritable tristesse parce qu'on a le sentiment d'avoir un bouquet d'opportunités et c'est vraiment un mot qui est cher à Énergie 2050. Nous, on appelle ça transformer les contraintes en opportunités d'agir. On voit qu'il y a un trésor d'opportunités et quand je dis trésor, ce n'est pas un petit trésor avec trois petites pièces, c'est vraiment des pépites partout. Et ces pépites-là, on voit qu'on est en train de les enfouir très profondément et d'être sur des schémas de développement qui ne fait qu'exacerber encore plus les problématiques. C'est presque un suicide imposé. Et je dis bien imposé, c'est-à-dire que nos bonnes volontés, je parle des gens qui ont décidé d'être des acteurs, nos bonnes volontés peuvent être anéanties par rapport à une inertie collective pour des mauvais prétextes. Et ces mauvais prétextes ne vont pas créer cette richesse partagée, vont créer que des zones de conflit qu'on a déjà aujourd'hui par rapport à l'inégalité des répartitions des richesses, des ressources, par rapport aux besoins de développement légitime. On ne peut pas continuer à imaginer qu'un Africain peut vivre avec 500 watts par an et nous être à 7000, 8000. Ça n'a pas de sens éthique, mais même au-delà de ça, de sens fonctionnel. Et bien évidemment, si on inverse juste 30 secondes les rôles, ben, on ne serait pas content et on chercherait à faire autre chose. Donc ce bon sens collectif pouvant apaiser l'humanité, on voit bien qu'on a des opportunités et qu'on est en train de le gâcher. Donc d'un côté, je suis écrasé par la bêtise collective qu'on met tous en œuvre. Et d'un autre côté, je sais que si tout le monde conjugue ce qu'on sait déjà faire, plus toutes ces innovations qui vont créer demain de l'emploi, de la richesse, du développement local, on est dans une solution gagnant-gagnant.